With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Binge Audio.
J'ai trouvé ma place. Je faisais ce que j'aimais, comme j'aimais. Je m'en foutais pas plus de gagner d'argent ou pas.
Salut, c'est Thomas Rozek. Cette saison, dans Programme B, on a décidé que de temps en temps, on ouvrirait nos micros à des personnalités qui nous sont chères. Des gens dont le travail, la vision du monde ou le parcours nous touchent et nous donnent envie d'en savoir plus. Moi, il se trouve que dans ma vie, depuis que j'ai accédé à cette étrange sphère de l'existence qui s'appelle la parentalité, il y a une personne qui prend pas mal de place. C'est un poussin. Un vrai poussin, un peu étrange puisqu'il porte un masque rouge grimaçant et qu'il répond au très joli prénom de Blaise. Cet animal surprenant, il vit d'intenses aventures dans les livres que je lis le soir à ma progéniture, qui lui voue en échange une passion sans borne. Peut-être une passion héréditaire d'ailleurs, car il se trouve que ce fameux Blaise, c'était pas un inconnu pour moi. Comme pas mal de gamins de ma génération, j'ai en effet passionnément aimé la bestiole et les bouquins de son créateur, Claude Ponty, un auteur majeur de la littérature jeunesse depuis la fin des années 80. Son imaginaire, ses inventions visuelles et langagières forment une œuvre passionnante. Et comme toutes les rentrées ont un léger parfum d'enfance, c'était un sujet rêvé pour un démarrage de saison. Bon, par contre, Blaise, le poussin masqué, n'était pas dispo pour une interview, donc je me suis très largement contenté d'aller discuter avec Claude Ponty de l'enfance, de l'âge adulte, de l'écriture et de tellement de trucs qu'on a décidé d'en faire non pas un, mais deux épisodes, dont voici le premier. Bienvenue dans Programme B. Et comme il faut bien commencer quelque part, une fois installé dans le jardin de sa maison dans la Sarthe, sous les tilleuls, avec du thé comme deux grands-mères britanniques, j'ai demandé à Claude Ponty, qui est né Claude Ponticelli le 22 novembre 1948 à Lunéville, en Lorraine, quel genre d'enfant il avait été. Et malgré le cadre bucolique et le ton décontracté de notre discussion, je préfère vous prévenir, certains événements évoqués peuvent heurter.
Alors, après examen a posteriori, j'étais un enfant solitaire, contemplatif, rêveur et probablement désespéré à partir de 3 ans. Pourquoi à partir de 3 ans ? Parce que à mes 3 ans, mes parents m'ont mis en pension chez ma tante, la sœur de mon père, qui venait de faire une fausse couche, donc j'étais un enfant médicament. Et dès qu'elle a été enceinte, je suis passé chez ma grand-mère paternelle, donc mes grands-parents paternels, qui étaient italiens très pauvres d'origine, et toujours très pauvres après, et qui parlaient à peine le français. Et j'y suis resté presque un an et demi, je pense. Et quand je suis revenu chez mes parents, j'avais un petit frère. Mais j'avais aussi un grand frère qui jouait dans la cour et on m'a dit d'aller jouer avec lui, mais ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas vu. Il y avait trois garçons qui jouaient dans la cour, je ne savais pas lequel était mon frère. Donc je pense que là, j'ai vécu un moment d'extrême abandon et d'angoisse. Et après, je suis rentré chez mes parents. J'étais toujours un petit peu celui qu'on envoyait ailleurs. Et puis, vous voulez tout, hein ?
Ouais. Bon.
Quand j'avais 7-8 ans, je me suis fait violer par mon grand-père, qui était le père de ma mère, l'idole de la maison. Donc, plusieurs nuits, parce que ça se passait la nuit. Et après, mes parents m'ont mis en sixième en pension chez lui. Parce qu'évidemment, je n'avais rien dit. Ils m'avaient menacé de si je disais quelque chose. Et donc là, j'ai passé un an, une année scolaire en sixième. Chaque fois que je me couchais le soir, ils montaient tous se coucher après moi. et en premier mon grand-père. Donc chaque soir, je mourais de terreur de savoir qu'il allait rentrer dans ma chambre. Mmh. Voilà. Alors là, j'ai été un enfant déglingué. Mmh. Ce qui ne m'a pas empêché d'être un grand lecteur, de me trouver un domaine où personne ne pouvait rien me faire, qui était le dessin, la peinture, et d'avoir eu, je ne sais pas d'où j'ai tenu ça, mais une rage de faire ce que je voulais, d'être peintre, parce que je voulais être peintre à l'époque, et j'étais pendant très longtemps. Et j'étais un enfant compliqué, incompréhensible pour mes parents. Je m'incompréhensiblais moi-même. Juste pour donner un exemple, en ce qui concerne mon grand-père, j'avais tout oublié, complètement, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ça m'est revenu, comme tous les gens le racontent, hein, par petits bouts, et je découvre encore des choses... maintenant. Donc, je lisais énormément. On a habité la campagne. Je traversais la route devant la maison. Je faisais 50 mètres, j'étais dans la forêt. J'ai beaucoup été dans la forêt. J'ai beaucoup lu en haut d'un arbre. j'ai fait plein de trucs de solitaire et je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en dehors du monde. Je comprenais pas qu'on me parle. Mais ça m'a jusqu'à 30 ans. Hein. Quand quelqu'un me parlait, même alors que je faisais des dessins dans l'Express, par exemple, si jamais le rédac-chef ou un autre me parlait, j'étais tétanisé. Mmh. Mais pourquoi il me parle? Parce que des fois, je vivais ça comme ça, c'est-à-dire que j'étais pas là. Mmh. Je pensais pas, j'étais juste pas là. Donc je pensais que les gens me voyaient pas. Ouais, c'est bizarre. Hein. Enfin, c'est bizarre. Oui, c'est rigolo. En fait, c'est rigolo. C'est très marrant.
Vous aviez quoi comme regard, pour rester un peu sur l'enfance, vous aviez quoi comme regard étant enfant sur les adultes, sur le monde des adultes? Il vous apparaissait comment?
Alors, j'avais quelque chose d'absolument traditionnel, je pense, chez les enfants, c'est de considérer les adultes comme des espèces de demi-dieux surhumains, autorisés à tout, capables de tout, décidant de tout. Alors, encore une fois, là... Moi, j'ai pas eu la protection, j'ai pas eu le lien, comme dirait Cyrulnik et d'autres. Moi, j'avais un regard au porte-à-faux. C'est-à-dire que, alors, je précise bien que je parle aujourd'hui de ça. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de choses, je les ressentais, je les vivais, mais j'étais incapable de les décrire comme ça. Donc, je me sentais porte-à-faux, et j'ai l'impression aujourd'hui, je savais toujours que c'était pas vrai. J'ai fondamentalement aucune confiance. Et aucune conscience de mon manque de confiance.
Mais contrairement, par contre, si j'ai bien suivi, contrairement à pas mal d'enfants qui sont un peu solitaires, qui ont du mal à faire du lien, à créer du lien aussi. Pour vous, l'école, ça n'a pas été un échappatoire, pour le coup. Ça n'a pas été un refuge, ça n'a pas été quelque chose où vous êtes senti épanoui. Alors que votre maman est institutrice.
Ben voilà, justement, l'école, pour moi, c'est une chose complexe. C'est-à-dire que ma mère était institutrice. J'ai été dans sa classe pour apprendre à lire. J'étais probablement dyslexique. J'étais sûrement très lent. Je n'allais pas vite. Alors, on était en plus dans une école expérimentale, c'est-à-dire qu'on m'a laissé être gaucher. Mais être gaucher, c'est aussi que tout n'est pas fait pour vous, parce que je suis un gaucher méga intégral à 200%, et ma mère ne supportait pas que je ne sois pas bien. Donc, je me suis fait engueuler jusqu'au jour où j'ai dû répondre, je ne sais pas quoi. Et là, elle m'a attrapé par un bras, elle a hurlé sur moi, elle m'a traîné dans la classe par terre, jusque dans la classe de la directrice qui était à côté, qui s'occupait que des jeunes filles qui elles apprenaient la couture, la cuisine.
Cours ménager.
Oui, cours ménager. Et je devais donc être profondément humilié d'être un garçon au milieu des filles. Donc, c'est ça, ma mère. J'ai appris avec elle. Et après, donc, mes parents ont déménagé. On est allé dans un tout petit village qui était le village de Étival-Clairefontaine, où il y a les papeteries Clairefontaine. Mon père a travaillé là-dedans. Et donc, on s'est retrouvé dans une école donc, de campagne. Là, en plus, ma mère, elle racontait aux enseignants ce qu'on faisait à la maison. Et elle savait tout ce qu'on faisait à l'école. C'était juste invivable, quoi. L'école m'est très tôt apparue comme quelque chose d'absolument inéluctable. J'ai appris de moins en moins. J'ai réussi à aller jusqu'au bac philo, que j'ai eu ric-rac. 10 de moyenne. J'ai perdu un point parce que je ne suis pas allé faire la gym. J'avais été opéré d'une appendicite fausse, volontaire, que j'avais faite parce que j'étais interne et j'en avais marre. Et j'ai eu un point de plus parce que j'avais fait option dessin. Donc, j'ai eu mon bac pile 10. Mais ce qui est étonnant, c'est toujours mon côté double tranchant. C'est-à-dire qu'en école primaire, j'ai eu une instite avant ma mère. Génial. Pour longtemps, elle m'a ouvert l'esprit, le monde. Après, j'ai eu... en quatrième ou en troisième ou en seconde, je ne sais plus, une prof d'histoire. Et puis j'ai eu un prof de philo, génial. Et là, trois profs ont sauvé entièrement toute ma scolarité. Tout le reste, c'est du pipi de chat. C'est essentiel, évidemment. Mais c'est colossal. Nous, on avait des profs fous hein, qui nous tapaient dessus. On avait un prof en allemand. C'était un célibataire sale. C'est-à-dire qu'il avait du jaune d'œuf sur sa chemise. Il était bedonnant, mais la chemise ouverte sur son ventre poilu. Alors, il faisait ce qu'il appelait les shtukas. Les shtukas, c'est les avions de guerre. Je dis pour les tout jeunes. Les avions de guerre allemands de la dernière guerre mondiale. Et alors, il fonçait sur les gens avec le poing fermé, comme ça. Et avec les articulations, il tapait de toutes ses forces. On en avait des comme ça. Il y en avait une autre. Alors, moi, je ne l'ai pas eue parce qu'elle était prof de latin. Elle notait négativement. C'est-à-dire en sixième, la première année, la meilleure note, c'était 0,25. Des vrais tarés, quoi. Ceux-là, ils n'ont pas eu de révolution culturelle. Ça leur a fait un peu... Non, mais je suis un peu méchant.
Et le monde de l'enfance, vous le perceviez comment? Le monde des enfants. Quand vous étiez vous-même enfant ou jeune adolescent, vous regardiez comment les autres comme vous?
Un monde à part, sous tutelle, autorisé à rien et cherchant tous les moyens d'échapper au manque de liberté. Ce qui fait que, par exemple, moi, habitant un village de 1000 habitants, avec 3 ou 4 copains, on a créé une patrouille de scouts.
Alors, j'avais été scout.
Oui, j'étais scout. Ah, je sais faire un feu, j'ai un badge de pontonnier. Hein. Je sais faire un pont. Hein. C'était vraiment le moyen qu'on avait d'échapper à nos parents. Et donc, on décidait de... Ça s'appelait des sorties, donc on partait 2-3 jours. Il faut imaginer les Vosges dans les années 50. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on habitait une maison au bord de la route, qui était une route nationale. Il devait passer à peu près 10 voitures par jour dessus. Donc, quand on allait dans la forêt, on pouvait se débrouiller pour passer de petite montagne à petite montagne pour être 3 jours sans voir personne. Sauf des bestioles. On n'a jamais fait de choses graves. J'ai jamais fait de choses graves ou difficiles. Mais bon, c'était des trucs pour avoir un peu de bouffée d'air. En plus, on n'était pas... À un moment, il y en a un, il a dit, on fait une sortie, je prends ma carabine, on va se faire un lapin. On lui a dit, non, t'es fou, prends pas d'armes. Et tout. Alors, on était vraiment... En fait, on était très sérieux. Quoi. Ouais. C'était pas...
Il y a, sur le chemin de l'enfance à l'âge adulte, pour vous, il y a une date qui est assez importante, qui est importante d'ailleurs pour tous les gens de votre génération, c'est forcément mai 68. Vous aviez 20 ans, je crois, en 68, 19 ans, 20 ans.
20 ans en 68. 20 ans, ouais. J'étais à Aix-en-Provence.
Vous étiez à Aix?
J'étais à Aix-en-Provence.
Vous faisiez quoi à Aix?
C'est parti. Aix-en-Provence, j'y suis allé parce que un ami à moi y allait et qu'il voulait faire les Beaux-Arts et la fac de lettres et que moi je voulais faire les Beaux-Arts et la fac de lettres. C'est une histoire compliquée parce que mes parents ont tout fait pour que je fasse pas de peinture et que donc du genre. Ma mère, c'était ce qu'il y avait de plus sophistiqué dans le genre. C'est-à-dire qu'elle m'a offert une boîte de peinture à l'huile avec une douzaine de tubes dedans, des pinceaux, et puis elle a sans arrêt dit à ses amis, qui étaient très rares d'ailleurs, regardez mon fils qui fait. Moi, je faisais des trucs de cinglé, hein, des gens ouverts comme ça, avec le cœur là-bas et tout. Et elle ne voyait pas. Elle ne voyait absolument pas ce que je faisais. Mais elle était très fière. Sauf que son idée, c'était que je serais prof de français et que je serais peintre le dimanche. Mmh. Moi, je ne voyais que par Van Gogh. Alors, elle était mal barrée, là. Et donc, ils n'ont pas voulu que je fasse les Beaux-Arts. Donc, je suis allé travailler comme garçon de café pour gagner des sous pendant l'été. Et on a cherché des Beaux-Arts. Alors, vu mon passé, je voulais des Beaux-Arts sans bizutage. Mon frère aîné est allé aux Beaux-Arts à Nancy, lui commençait des études d'architecture, et donc il est revenu tout fier en disant « Le bizutage, c'est super, on t'enferme à poil dans un placard avec une fille, toi t'es peint en bleu, elle est en jaune, et vous devez ressortir vert. » Je sens que ça ne va pas être mon truc du tout. Et donc, les Beaux-Arts qu'on a trouvés, qui étaient des Beaux-Arts très merdiques, hein, une école municipale sans intérêt, c'était la plus loin de mes parents et la seule sans bizutage. Donc, je suis allé là-bas et 68, c'était loin. Pour donner une idée de ce qu'était 68 à Aix-en-Provence, mis à part les gens d'ordre nouveau et les gens d'extrême gauche qui se tapaient dessus à coups de bâton et qui pétaient les vitres de l'entrée de la fac, c'était voilà, le grand jour où il y a eu la grande manif des ouvriers, des secrétaires, des professeurs, des étudiants, des paysans, tout le monde ensemble. Il y a eu une très grosse manif. Ils ont descendu le cours Mirabeau, qui est les Champs-Élysées de là-bas. En bas du cours Mirabeau, il y a une fontaine, si je me souviens bien. Et juste avant la frontière, il y avait trois flics en pèlerine avec un vélo. Et la manif s'est dissoute sans problème. Et je suis parti, je me suis barré. J'ai travaillé aussi à Aix pour faire ce que je voulais. Donc, globalement, la scolarité, ça a été une bataille. L'enfance, l'adolescence, c'est une bataille. Mais je répète, hein, j'avais la rage. 68, je suis à Aix-en-Provence. 69, je vais à Strasbourg suivre ma compagne. Et je m'inscris en fac de lettres. Je tiens un trimestre. Je m'inscris en histoire de l'art. Je n'y vais pas. Je m'inscris en archéologie. J'y suis allé qu'au premier cours. Non, mais j'étais vraiment très con. Hein. Je suis allé aux Beaux-Arts parce que je croyais qu'on apprenait à peindre et à dessiner. Et après, je suis allé en fac de lettres parce que je croyais qu'on apprenait à écrire. Alors, en plus, fac de lettres, c'était l'époque du structuralisme. D'ailleurs, qu'on prenait Baudelaire, les fleurs du mal, et on comptait les mots. Combien de fois il dit vaste, combien de fois il dit ciel, etc. Donc ça... J'ai réussi à être quelqu'un qui ne savait pas compter. Bon, je suis assez entier quand même. C'est quand ça va pas.
Arrivé à ce moment-là, vous vouliez faire quoi de votre vie? Vous saviez déjà?
Toujours voulu être peintre.
Ouais.
Van Gogh, peintre raté. Pas de problème. Et non, mais il s'est trouvé que là, je pars à Paris avec rien. Je vais voir un mec que j'avais rencontré un jour qui me dit « Mais si tu viens à Paris, viens me voir. » Je vais le voir, il était bien emmerdé. Je n'avais rien. Et donc, bon, il m'a trouvé quelqu'un chez qui habiter, toujours réussi à avoir un peu d'argent, etc. Et bon, je suis tombé sur des gens vraiment sympas, vraiment généreux. Et puis, il y en a un qui me dit, « Ah, mais tu sais, à mon boulot, il y a quelqu'un qui m'a dit que son frère qui était étudiant, il lui avait dit qu'à l'Express, il cherche des étudiants pour faire les coursiers. » Donc, j'y suis allé, mon prix. Et donc, là, j'ai fait le coursier. Puis, à un moment, ils m'ont appelé à l'armée pour être soldat, tu vois. Canonnier, je devais être. J'ai réussi. On faisait 3 jours à ce moment-là. Et donc, je n'ai fait que boire de l'eau et fumer tout ce que je pouvais fumer. Je suis parti avec 2 ou 3 cartouches de cigarettes. Et je ne mangeais pas. Donc, à un moment, il y a une visite médicale. Le médecin, il me parle, ça, il me dit « Tends les mains devant toi. » Je tends les mains. C'est 3 jours sans bouffer, en fumant. J'étais comme ça. Il me dit « Toi, t'es drogué. » Non. Hop, à l'hôpital. Là, ça a été assez dur, mais j'ai eu de la chance. Je ne suis pas resté, je ne sais plus, 1 mois, 2 mois. Je n'ai plus aucune idée. Et l'hôpital militaire à Toulon. Oui, c'était assez simple. Tous les gens qui arrivaient, c'était des calmants. Moi, je sais que le premier jour, j'ai fait semblant de prendre mon calmant. Je me suis approché de la fenêtre à barreaux. J'ai balancé mon calmant. Regarde, il y avait à peu près 2 millions de calmants dans le calion. Et alors là, c'est pareil, j'avais la rage. Donc, j'ai pris mes couvertures, j'ai fait une tente sur mon box, comme ça, avec le drap pour faire une entrée. Et on m'avait demandé ce que je voulais. J'avais demandé des feutres pour dessiner. Et j'ai dessiné sur tous les murs. C'était terrible parce qu'ils donnaient des calmants aux gens et puis ils les resocialisaient petit à petit. Je me souviens, il y en a un, il était breton. Il était donc, on l'a mis dans la marine, forcément, puisqu'il est breton, il a sauté du bateau de guerre, il a sauté dans l'eau. Il m'a dit, mais moi je ne peux pas être marin, là, je n'aime pas la mer c'est un cimetière pour moi. Mon père est mort, mon père est dans la mer, mon oncle est dans la mer, mon grand-père est dans la mer. Ils veulent vraiment que je sois marin, je ne veux pas être marin. Mais ils l'ont eu, parce que... il a commencé à se calmer, ça allait un peu mieux. Puis on lui a dit, oh ben, si tu veux, tu pousses le chariot du petit-déj, tu donnes... voilà. Puis peut-être, puis au bout d'un moment, tu veux sortir un peu, tu peux aller en ville, tu as 2 heures. Ça. Et au bout d'un moment, il dit, bon, ben, t'es OK, c'est bon. Et il retournait sur son bateau. Je ne sais pas ce qu'il a fait après.
Ça, c'était en quelle année? C'était en 70, à peu près?
Oui, par là. Oui, parce qu'en fait, j'avais eu des sourcils, trucs comme ça. Ça aussi, c'est bizarre de débarquer à 22 ou 23 ans, oui. Et que, quand les autres ont tous 18 ans. C'est des années qui comptent, de différence qui comptent beaucoup. Donc, j'étais là, et moi, c'était simple. J'étais coursier pour gagner suffisamment de quoi manger et acheter des peintures, et peindre, et dessiner. Et c'est ce que j'ai fait.
Et à l'Express, comment vous êtes passé de coursier à dessinateur de presse? Ça s'est fait comment?
Ça s'est fait que moi j'ai connu donc l'Express après 68. Donc il y avait d'une part François Giroux qui dirigeait le journal, qui était quand même pas rien du tout. Comment on dit au féminin? Rien du tout. Et des gens d'après 68, ces gens qui fumaient, qui jouaient de la musique quand ils faisaient les bouclages et tout. Et moi, j'étais coursier, je portais les papiers du secrétariat de rédaction à l'imprimerie parce que c'était encore au plomb. Il y avait des jours où j'étais là, mais il y avait moins de boulot. Et donc, où je bouquinais, où je dessinais. Donc les gens, ils parlent, ils discutent. Un jour, il y en a un qui a voulu voir mes dessins, il y en a un. Puis après, il y en a qui m'en ont acheté. Et puis, un jour, comme ça arrive, quoi, c'est-à-dire qu'ils créent une rubrique, c'était des rubriques de notes, des notules. politique et économique, je crois. Ah ben, ce serait bien qu'on mène des dessins. Et tout. Ah ben, pourquoi tu ne demandes pas à Claude ? Et voilà, j'ai commencé comme ça. Le premier soir, j'avais un ami qui était à la maison. Il y a deux dessins qui leur plaisent, mais il faut que je les fasse au propre. Je suis rentré chez moi, je n'y arrivais pas. Il fait, je me souviens très bien, c'était pour une histoire de gaz dans un émirat ou quelque chose comme ça. Et donc, j'avais dessiné un chameau, mais la bosse, c'était une bouteille de gaz. Ouais, classique. Hein.
Oui.
Je n'arrivais pas à dessiner le chameau. Et alors, mon copain qui dessinait pas mal, on dit, attends, je te fais ton chameau. Alors, il m'a fait le chameau au crayon. J'ai rajouté la bonbonne et après, je l'ai fait à la plume. Mais mon premier dessin, je n'arrivais pas à le faire. Non, j'étais...
stressé.
Bah, c'était... Oui, mais en plus, c'était dingue. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde nous dit, attention, c'est la chance de ta vie. Je suis mort de trouille, arrêtez. Voilà, ça a commencé comme ça et puis j'ai continué.
Cette époque-là où vous êtes illustrateur, donc pour la presse, donc dans les années 70-80, c'est une époque de grand foisonnement éditorial en France, notamment du point de vue du dessin, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la bande dessinée, notamment, qui se font. C'est quelque chose qui vous intéressait, c'est quelque chose que vous avez suivi, qui vous a peut-être même influencé quelque part.
Ça m'a forcément influencé, mais il faut dire par exemple que du côté de ma façon de ne pas être dans le monde, j'avais un comportement infantile en ce qui concerne le travail des autres. C'est que j'étais comme les enfants que j'ai rencontrés il y a 20 ans pour la première fois, qui croyaient que tous les auteurs étaient morts. C'est-à-dire que j'ai été amené, par exemple, à être directeur artistique de l'Imagerie d'Épinal et d'être le petit éditeur de, par exemple, Tardi ou Fred. Tardi a un an de plus que moi. Pour moi, il avait 30 ans de plus que moi. Je vivais les choses comme ça. En plus, il faut dire que tout ce que je voulais, c'était être peintre. Donc, j'étais coursier express, je faisais des dessins à l'express pendant un moment, c'était purement alimentaire. C'est pas péjoratif, hein, j'ai jamais pu faire mal quelque chose. J'étais mal élevé pour ça. Moi, je prenais une raclée si je faisais mal, donc il faut faire bien. Je n'ai fréquenté personne. Je rentrais chez moi, on sortait, on allait au cinéma, on s'achetait des livres et on peignait, parce que la compagne dessine, peint aussi. Voilà. Je n'ai fréquenté personne, ce qui fait que le jour où ils m'ont jeté à Express, que j'ai pris mon petit carton pour aller voir les autres, on fait plus le malin, là. On était à Express, on avait besoin de personne. Ouais, j'ai pris une bonne claque. C'était intéressant. En fait, je me pensais pas au niveau des autres comme ça, rapport comme Tardi avec l'âge, etc. Et je pensais que ma peinture, il y avait... Puis en plus, j'étais hyper timide, hein, hyper coincé. Je le suis encore, mais comme je me sers de l'auteur pour parler à ma place, ça marche.
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.